Voilà, j'aimerais alors commencer. Bonjour. J'aimerais un petit peu montrer un petit peu quel sera le programme pour la journée en fonction de ce qu'on aura vu, on a déjà vu les semaines précédentes ou il y a 3 semaines, et puis qu'on verra encore la semaine prochaine. Donc la dernière fois, on avait vu la définition de l'eschatologie, pourquoi c'est important, et puis un petit historique sur l'eschatologie. Et puis, on avait travaillé particulièrement l'eschatologie personnelle. Donc, l'eschatologie personnelle, c'est la fin de la vie humaine, la mort, avec les différentes réalités de résurrection. Et puis, si on monte, c'est moi qui monte ou c'est toi qui monte? Je peux monter? Voilà. Donc on avait vu la mort, l'état intermédiaire, où est-ce que nous allons, que nous sommes morts, le lieu des morts, la résurrection, avec les versets bibliques qui vont avec, et puis les jugements, puisque tout être humain sera jugé, tant les chrétiens que les non-chrétiens, mais ce sera des jugements différents. Aujourd'hui, on va passer la matinée à voir la première partie de l'eschatologie générale. Et l'eschatologie générale, c'est le retour de Jésus. Donc, personnel, c'était pour l'individu, pour vous et pour moi, tandis, et ça a une dimension vraiment personnelle, tandis que l'eschatologie générale, c'est l'eschatologie, donc la doctrine de la fin des temps, qui concerne toute la planète, qui concerne toute l'humanité, finalement. Et puis aujourd'hui, nous allons voir le retour de Jésus-Christ. Avec quelques fausses idées que l'on se fait, les signes qui annoncent son retour, pour qu'on puisse être bien clair ce que la Bible dit, puis pas forcément ce que les uns et les autres croyons, et puis comment il va venir. Et puis on va justement travailler sur ce comment il va venir. Il va venir en 2 phases, d'abord dans les airs, on verra pourquoi et comment, sur la terre, et puis je vais parler de la tribulation. Vous savez, ce temps difficile que la Bible mentionne. Ce sera tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous allons parler. Donc, nous allons arriver juste avant le retour de Jésus aujourd'hui. Puis la semaine prochaine, c'est pour ça que c'est 2 semaines qui sont contiguës, pour pas trop perdre le fil de cette eschatologie. On verra le millénium, ce que ça veut dire, quelles sont les différentes doctrines, puis aussi. On va regarder le livre de l'Apocalypse, voir un petit peu ce livre un peu obscur, comment le lire, comment l'interpréter, et puis on s'arrêtera particulièrement sur les 7 églises, donc dans le début du livre de l'Apocalypse, pour voir un petit peu ce que ça correspond et ce que les théologiens ont considéré, à quoi ça correspondait, et puis comment interpréter l'Apocalypse, puis on terminera en essayant de faire une sorte de schéma chronologique pour qu'on puisse avoir une vision un petit peu claire, que ce soit visuel, et puis qu'on puisse se dire, ah, mais ça sera plutôt comme ça. D'accord? Donc aujourd'hui, on est vraiment à la phase numéro 2, presque la meilleure phase, puisque dans le sandwich, c'est ce qui est au milieu qui est meilleur. On aura une petite pause, et cette petite pause, elle se fera en fonction du moment où on aura terminé un sujet. Ce qu'on va faire pour vous aider, comme vous n'avez pas les tables, c'est qu'on va vous montrer les versets bibliques que je vais citer pour qu'on puisse comprendre un petit peu mieux, pas que je vous dise n'importe quoi, mais qu'on puisse vérifier, comme les chrétiens de Béret, qui regardaient dans la Bible ce que leur disait Paul, si c'était exact. Et si c'était exact, ben ils l'acceptaient parce que ça se trouvait dans les Écritures. Donc on ne va pas simplement parler de fin du monde, mais on va surtout voir ce que la Bible dit. Donc c'est un cours où on ouvre vraiment la Bible et puis on regarde ces pièces de puzzle qu'on ne sait pas où mettre parce que ça, on ne comprend pas. Puis en les mettant ensemble, on verra qu'on a un joli dessin de ce que la fin du monde veut nous dire. La Bible n'est pas un livre qui va systématique dans le sens qui va parler du retour de Jésus dans un chapitre ou dans un livre et c'est tout. Mais c'est des touches qui se trouvent un petit peu partout dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, bien sûr. Et puis, à nous de reprendre un petit peu les touches et puis de voir un petit peu quel est le profil de ce retour de Jésus-Christ en fonction de tous les versets. Dans un premier temps, quand on est jeune chrétien, on entend des choses et puis c'est croustillant hein, de ce retour de Jésus-Christ parce que c'est des choses extraordinaires. Et on pense que ce que l'on croit, c'est la seule vérité. Puis ce que tous les autres pensent sur le retour de Jésus-Christ, ce n'est pas très juste simplement parce qu'ils ont pris un verset et puis ils n'ont pas pris l'entièreté des versets. Alors nous, on ne va pas faire quelque chose de très sectaire, dans le sens qu'on ne va pas prendre un verset et puis je vais vous dire, c'est ça que vous allez croire. Mais on va faire comme la dernière fois, on va un petit peu s'interroger, être surpris aussi de la complexité des versets, puis voir que si on a une théorie qui est extraordinairement solide, eh bien un petit verset peut un petit peu la démonter, puis nous montrer qu'on doit avoir une certaine humilité, et puis dire qu'on ne comprend pas forcément tout ce que la Bible nous enseigne dans le cadre de l'eschatologie. Alors, le retour de Jésus-Christ, puisque c'est le premier parti, ou seconde venue de Jésus-Christ, le grec utilise le mot parousie, et ce mot parousie, c'est du mot grec parousia, qui veut dire le retour, le revenir. C'est abondamment mentionné dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Il y a plus de 300 références qui s'y trouvent. Et quand je dis des références, c'est pas des versets biblique, c'est des références, donc des portions de l'écriture, 300 références qui s'y trouvent. C'est donc une doctrine importante qui doit retrouver toute sa valeur dans notre doctrine évangélique. Et il faut bien qu'on réalise que c'est peut-être aujourd'hui la doctrine la moins réfléchis dans notre vie. On sait que Jésus va revenir, alléluia, mais on ne met pas autant d'importance que ce que la Bible donnait. Un verset sur 15 dans le Nouveau Testament parle de l'eschatologie. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Et nous, ce serait peut-être un verset sur 250 000. Parce que on parle plutôt de notre communion avec Jésus, de la louange, de la guérison, du Saint-Esprit, de l'Église, etc. Une des pensées fondamentales du Nouveau Testament, c'était que Jésus allait revenir. Et puis cette pensée eschatologique, elle est vraiment très présente dans les Écritures. Jésus a annoncé son retour, on le voit dans la suite, dans Matthieu 16, 28, quand il dit « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils d'un homme venir dans son règne. » C'est un verset difficile, celui-ci, parce qu'on ne sait pas vraiment si c'était pour les chrétiens de l'époque. Si c'était pour les chrétiens de l'époque, c'est un peu loupé. Ou alors, si c'est pour nous, mais finalement on se dit n'importe quelle période à laquelle on va pouvoir lire la Bible, si Jésus revient, ça sera un verset qui sera pour les chrétiens qui seront présents. Donc on se dit c'est un petit peu facile d'écrire ce genre de choses, parce que soit c'est trop tard, ou bien soit de toute façon ça va arriver à quelqu'un. Il continue aussi donc, dans d'autres références, en Matthieu 16, 27, « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec les anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Donc on voit que Jésus redit aussi qu'il va revenir. En Luc, je vous montre aussi que tous les évangélistes du Nouveau Testament vont parler de ce retour de Jésus. « Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire », nous dit Marc 13, 26. Luc nous dira ceci, « Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire », même chose. Puis enfin Jean 14, 3, « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Donc on voit que Jésus il a vraiment dit à plusieurs reprises qu'il allait revenir, d'où cette seconde venue de Jésus. Il y a aussi les apôtres qui ont parlé du retour de Jésus, comme par exemple Paul aux Thessaloniciens. Il leur dira « Car le Seigneur lui-même à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, donc voilà, c'est son retour, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Il dira aussi à Tite, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de son sauveur Jésus-Christ, donc Jésus va se manifester à nouveau, et puis c'est donc cette dimension du retour. Pierre l'a aussi annoncé en disant, un petit verset, mais une partie du verset de 1 Pierre 1,7, « Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, donc c'est assez clair pour lui qu'il reviendra, Jacques, vous aussi soyez passants, affirmez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Cet avènement, c'est donc ce retour de Jésus. Et puis même l'auteur des Hébreux, donc on ne donnait pas le nom, va aussi parler de ce retour de Jésus quand il dira « De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Donc on voit vraiment que les hommes, ils ont les écrivains du Nouveau Testament ont parlé de Jésus. Puis je vous en ai mis que quelques-uns, on pourrait avoir bien sûr plus de 300 références à lire. Et puis même les anges, dans le cadre de l'enlèvement, l'ascension, pardon, va leur expliquer, homme galiléen, pourquoi vous arrivez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Donc on se rend compte que, et les anges et les hommes remplis de l'Esprit de Dieu parlent de ce retour de Jésus. Alors, ça fait beaucoup de monde. Puis effectivement, beaucoup de monde se sont interrogés en se disant, tiens, comment est-ce que Jésus va revenir? Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que souvent, dans ces doctrines un petit peu oubliées, eh bien, il y a beaucoup de gens qui inventent n'importe quoi, et puis vont communiquer ce n'importe quoi, et puis ça va faire partie de nos croyances. C'est-à-dire, on va croire ces choses-là, mais on ne va pas les vérifier. Par exemple, quand les enfants sont petits, ils croient au Père Noël, ils croient à la petite souris. Vous voyez, c'est des croyances qui existent, et puis pour eux, c'est absolument sûr que ça existe. Si vous dites que ça n'existe pas, la petite souris, ben vous faites pleurer votre enfant. Ben on a comme ça aussi, nous, des croyances. On croit que le retour de Jésus va se passer de telles choses, mais on n'a pas forcément de fondement biblique pour dire vraiment que ce que je crois, c'est la vérité. Or, il y a pas mal de gens qui ont essayé d'interpréter la Bible pour vous expliquer que Jésus va revenir de telle ou telle façon, et puis ça a du sens. C'est ça que c'est intéressant. Si c'était complètement débile, Jésus reviendrait en Rolls-Royce, tiré par 3 ou 4 chevaux ailés, on se dirait, tant t'as un petit peu fumé la moquette là. Mais ça a du sens ce que les gens ils vont le raconter. Puis je vais vous en donner 4 pour vous comprendre, 4 hérésies, donc 4 croyances erronées, qui nous montrent qu'avec des versets bibliques, on peut faire dire à la Bible ce que l'on veut. C'est pour ça que c'est important de lire la Bible dans sa globalité pour comprendre qu'on ne fait pas dire à la Bible ce que l'on veut, mais on lui fait dire ce qu'elle veut nous dire. Et la première hérésie, bon, il y en a plein, hein, j'en ai relevé 4 parce que c'était les 4 plus rigolotes, enfin les plus marquantes. D'abord, c'est le jour de la Pentecôte. Alors, le verset qu'on va lire, c'est Jean 16, 16, qui dit ceci. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je m'en vais au Père. Donc on voit ici que, quelque part, Jésus dit, je vais partir, mais ça sera court, encore un peu de temps, et je reviendrai. Et puis, si je prends 2 Corinthiens 3, 17, qui est aussi un passage de la Bible, qui dit, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Alors, d'une façon tout à fait intéressante, je vais mettre ces deux versets en relation, et je vais dire, si Jésus est l'Esprit, et puis que Jésus va dire, eh bien, je reviendrai dans un peu de temps, une fois qu'il est monté au ciel, effectivement, 10 jours après, le Saint-Esprit est descendu sur la terre le jour de la Pentecôte, et c'était un peu de temps. Donc finalement, le retour de Jésus, ce Jésus qui est l'Esprit, Eh bien, c'était le jour de la Pentecôte. Allez démonter ça. Parce que c'est deux versets qui semblent dire exactement la même chose, et puis on comprend intellectuellement que ça peut avoir un sens. Alors ça veut dire qu'on n'a plus besoin de l'attendre. Donc il ne va plus revenir, puisqu'il est déjà venu sous forme de l'Esprit. Puis ce verset biblique que l'on ne comprenait pas bien, le premier verset que je vous ai lu, en vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas, qu'il n'ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Eh bien voilà, comme le Fils, comme Jésus sait l'Esprit, eh bien, effectivement, quelques-uns ne sont pas morts, puisqu'ils étaient quasiment tous là, il y avait juste Judas qui n'était plus là. Et puis ça a son sens. Et puis si je prêche ça le dimanche, eh bien, si j'y mets la forme, eh bien, vous allez voir que du feu. Parce que je vais me baser sur des versets bibliques qui sont cohérents. Or, on comprend bien que ce n'est pas le jour de la Pentecôte que Jésus est revenu. Que dans la mesure où on a bien compris ce qu'était la Trinité, Dieu le Fils est différent de Dieu le Saint-Esprit. Et puis qu'il faut comprendre 2 Corinthiens 3 d'une autre façon que celle du retour de Jésus. Vous voyez, mais on peut un petit peu s'embarquer dans un petit peu n'importe quoi. Deuxième fausse croyance, c'est que Jésus revient le jour de notre salut, c'est-à-dire le jour où on se convertit. Alors, à nouveau, je peux vous montrer en Jean 14, 23, ce verset qui dit « Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » C'est-à-dire que Jésus est au ciel, hein, puisque l'ascension a eu lieu il y a bientôt maintenant 2000 ans. Mais dans la mesure où je me convertis, si je crois en Dieu, eh bien, le Père et Jésus vont descendre et venir faire leur demeure dans mon cœur. Donc, finalement, géographiquement, Jésus va se déplacer du ciel sur la terre. C'est son retour. Il y aura ainsi autant de retours de Jésus que de personnes sauvées, ce qui fait quand même beaucoup, des millions, hein, je n'ose pas dire des milliards, mais en tout cas plusieurs millions. Mais cependant, pour chaque converti, il n'y aura qu'un seul retour de Jésus, ça sera le jour où il se sera converti. D'ailleurs, quand on dit « j'ai accepté Jésus dans mon cœur », il faut bien que ce Jésus qui est au ciel descende du ciel pour venir dans mon cœur. Et c'est le retour de Jésus, mais d'une façon personnelle. Comme j'ai une mort personnelle, comme j'ai une nouvelle naissance personnelle, j'ai un baptême personnel, j'ai un retour de Jésus personnel. Et puis ça en a troublé plus d'un. Continuons un petit peu, parce qu'on n'est pas là forcément pour parler que des hérésies, mais on est aussi là pour démonter les fausses croyances que l'on a pour se dire « Tiens, mais ce retour de Jésus, finalement, je sais beaucoup de choses, mais est-ce que ces choses sont justes ?» Par exemple, le jour de notre mort, moi je peux vous dire que c'est le retour de Jésus. Pourquoi ? Eh bien, si je lis Matthieu 24, le verset 42, il a dit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour le Seigneur viendra. » Donc, c'est-à-dire que, qu'est-ce que je dois veiller ? Je dois veiller à ma vie, je dois être, comme le disait Paul, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course, désormais la couronne m'est réservée. Quelque part, il faut être jusqu'à la mort, et puis, à la mort, eh bien, il y a quelques versets dans le Nouveau Testament, ils disent que des anges sont venus chercher les morts, ou bien que Jésus lui-même, et il y a plein de témoignages de personnes qui sont en train de mourir, et puis qui se voient partir, puis c'est Jésus qui vient à leur rencontre pour les accueillir. Ce n'est pas Saint-Pierre, c'est Jésus. Alors on va tordre un petit peu Matthieu 24, parce qu'en fait c'est un verset qui parle plutôt de l'enlèvement, plutôt que de la mort. Et puis, donc, comme Jésus vient me chercher à ma mort, eh ben, c'est le retour de Jésus. Jésus descend du ciel pour moi, vient prendre mon âme et mon esprit et remonte au ciel avec lui. Donc, c'est comme pour l'hérésie précédente, il y a une multitude de retours de Jésus, puisque chacun est confronté à sa mort. Puis enfin, le dernier, c'est peut-être le plus spirituel de tous, puisqu'on va... il faudrait peut-être monter le... Merci. On en est à Matthieu 6, 10, donc de la deuxième page. Voilà, merci. C'est la prière du Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et quand je prie pour que le règne de Jésus vienne, au niveau sémantique, au niveau des mots, que le règne de Jésus vienne sur la terre. Donc quelque part, ce règne de Jésus qui vient sur la terre, de Dieu qui vient sur la terre, c'est d'accueillir Jésus sur la terre. Finalement, au début, c'est un petit peu mitigé, il n'y a pas grand-chose, puisqu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens, mais plus il y a de gens qui se convertissent, plus ce règne il s'établit. Ce qui veut dire que Jésus ne va pas revenir physiquement, mais il va revenir petit à petit, en fonction de cette foi grandissante dans le monde. Et puis cette prière va devenir de plus en plus réelle, jusqu'au moment... bien, où il n'y aura plus de chrétiens sur la terre et où le règne de Jésus, enfin, où il y aura. Et Jésus reviendra justement sur la terre. Et au fur et à mesure que le monde croit en lui, Jésus revient petit à petit. Donc ça, c'est peut-être tiré par les cheveux, mais si je prends le Notre Père comme verset de référence, ça a tout de suite une connotation très spirituelle. Ah, le Notre Père, donc c'est sérieux. C'est Jésus qui a institué cette prière, donc il faut la prendre au sérieux. Puis je peux faire dire n'importe quoi à la Bible, simplement pour justifier des croyances qui sont de fausses croyances. Bien, donc, on va dire que Jésus n'est pas revenu à la Pentecôte, qu'il n'est pas venu à votre conversion, qu'il ne reviendra pas à votre mort, puis qu'il ne reviendra pas petit à petit, comme on nous semble le dire, mais qu'il va quand même revenir. Vous êtes d'accord? Bien. Alors, il y a des signes qui sont annonciateurs du retour de Jésus. Et comme une fois la Bible n'est pas un livre systématique, il faut qu'on trouve ces signes, ces passages, dans différents endroits dans la Bible pour se faire une opinion globale, générale, et pas simplement prendre un verset en disant « Ah, Jésus reviendra comme ça ». Et puis, il y en a 7 de ces signes. Alors, vous me direz... Ah, 7, c'est un chiffre divin. Mais non, il ne faut pas non plus chercher là où il n'y a pas de choses. Il y en a 7, il y en a 7, hein, c'est tout. Il aurait pu y avoir 8 ou 6. S'il y en avait 6, ça aurait pas dit, ah, c'est un chiffre d'homme, donc ça veut dire que, etc., il faut se préparer. Ou bien 7, ah, c'est divin, donc. Mais il y en a 7. Alors, on va d'abord lire les textes, parce qu'il faut lire des lectures, il faut faire 2-3 lectures préalables pour s'imprégner de ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Et puis, essayer de voir les relations, les parallèles qu'il y a entre ces 3 chapitres. Le premier, c'est Matthieu 24, versets 5 à 12. C'est celui qu'on connaît le plus, puisque Matthieu 24, c'est un chapitre eschatologique, c'est-à-dire qui parle de la fin des temps. « Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Premier texte. Deuxième texte, 2 Thessaloniciens 2, 3 à 8. Et 2 Thessaloniciens, c'est non seulement des chapitres, mais c'est un livre complet qui est un livre eschatologique. « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce que l'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. Et alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'action de son avènement. Et puis, vous avez aussi 2 Pierre 3, tout le chapitre. Je vais juste vous en lire un seul, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Je fais une petite parenthèse. On a décidé, dans les responsables du cours enraciné, que pendant les 3 fois que le cours allait être donné sur l'eschatologie, j'allais vous parler, et que le dimanche qui suivait la dernière fois, donc la prochaine fois c'est dimanche prochain, le samedi prochain, le lendemain, je vais aussi apporter la prédication sur le retour de Jésus, pour qu'il y ait un sens au niveau de l'Église, pour qu'il y ait les cours enracinés, plus une prédication générale à toute l'Église. Ça sera ce verset qui sera la base même de la prédication. Le Seigneur ne tarde pas l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Vous voyez, encore des croyances qui sont fausses. Là, il en avait déjà. Mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alors si on prend ces différents passages, on va retrouver ces 7 signes qui se complètent. Et je ne veux pas forcément vous convaincre que Jésus va revenir puis qu'il y aura des signes qui vont être annonciateurs de son retour, mais on va simplement le lister, comme ça on a en mémoire, on les sait déjà un petit peu intuitivement. D'abord, il y aura des faux Christs et des faux prophètes, c'est surtout le livre de Matthieu, le chapitre 24, qu'on va utiliser pour ceci. En deuxième lieu, il y aura des guerres et des menaces de guerre, c'est le chapitre verset 6 de Matthieu 24, des famines, et on se rend compte qu'il y a toujours eu ça. Alors on pourrait se dire, mais attendez, des guerres, il y en a tout le temps, quoi. Je crois qu'il y a quelqu'un qui avait compté depuis les 2 dernières milliers d'années combien il y avait eu de jours où il n'y avait pas de guerre entre les peuples. Je crois que ça se comptait en semaines. Donc l'être humain sans Dieu est belliqueux et cherche à avoir ce qu'il n'a pas. Hein. C'est le 10e commandement, tu ne convoiteras pas. Eh ben, l'homme aime convoiter, puis pour convoiter, il va tuer, il va mentir, il va essayer de transgresser tous les commandements liés à l'homme, et puis il va faire la guerre. Donc la guerre, c'est depuis tout le temps. Alors pourquoi maintenant, et puis pourquoi pas avant, hein, pourquoi maintenant, puis pas la Première Guerre mondiale, pourquoi maintenant, puis pas la Deuxième Guerre mondiale, pourquoi maintenant, puis pas... Vous voyez ce que je veux dire ? La guerre de sécession, par exemple, voilà, il y a tout le temps eu des guerres, des bruits de guerre, ça, il y en a encore plus. Mais on se dit, mais de toute façon, j'ouvre les journaux, quelle que soit l'époque, j'en vois. Donc, il ne faut pas simplement se focaliser sur un signe de son retour en disant, Jésus, il est déjà revenu puisqu'il y a eu tellement de guerres. Mais il faut regarder les 7, puis il faut que les 7 puissent se passer. Si on n'a que 6, ça ne marche pas. Il faut que les 7 fonctionnent. Et puis, à différentes époques de l'humanité, il y a eu 3, il y a eu 5, il y a eu 6, il n'y a jamais eu 7. Quand il y aura 7, Jésus reviendra. Alors, on va bien les prendre ensemble, puis on ne va pas les trier en disant ça, ce n'est pas pour maintenant, etc. Il faut qu'ils soient tous. Donc, des faux Christ et des faux prophètes, il y en a quelques-uns, mais sans quelques éliminés, mais il n'y en a pas tellement beaucoup. Je pense que ça va encore arriver avec beaucoup plus de force. Guerre et menaces de guerre, ça, c'est clair que c'est très souvent. Famine, épidémie et tremblement de terre. J'ai lu un article qui disait que dans ces 10 dernières années, il n'y avait jamais eu autant de tremblements de terre que depuis les 2 à 3 000 dernières années. Alors, évidemment, il n'y avait pas de sismographe avant. C'est un petit peu difficile de dire qu'il y a un tremblement de terre là-bas. Ou si on avait un, personne ne pouvait le relater. pouvons nous dire il y a eu un tremblement de terre, il y a eu des décès, il y a eu des maisons, des villes qui ont été détruites, parce qu'on n'avait pas l'information. Maintenant, on a l'information planétaire, et puis dès qu'il y a un tout petit tremblement de terre au Japon, aux Philippines, en Amérique du Sud ou bien en Alaska, eh ben, tout le monde le sait. Et puis, ah, il y a de plus en plus de tremblements de terre, mais c'est normal, parce qu'il y a de plus en plus d'informations. Parce que le monde est connecté, et puis donc on ne peut pas dire qu'il y en a plus qu'avant, mais c'est vrai qu'il y en a quand même. La persécution des croyants, ça c'est intéressant. J'avais reçu via un mail les 10 pays les plus persécutés dans le monde, et puis, alors c'est bien sûr une dimension de proportionnalité. Si vous avez 10 croyants, puis qu'il y en a 5 qui sont persécutés, ça fait 5 qui sont persécutés, ça fait la moitié. Mais si vous avez 1 million de croyants, puis vous avez la moitié qui sont persécutés, ça fait beaucoup plus de persécutions, mais ça fait le même ratio. Donc, plus l'Église grandit, plus le nombre de convertis s'ajoute chaque jour à l'Église, plus il y aura des possibilités pour persécuter les chrétiens. Donc, il ne faut pas dire, oui, il y a plus de persécutions maintenant qu'avant. Si vous relisez Acte 8, vous verrez que dès que les disciples ont commencé un petit peu à bouger et puis à évangéliser Jérusalem, il y a eu une grande persécution, ce qui a fait que tous les chrétiens, sauf les apôtres, mais tous les chrétiens, les juifs qui s'étaient convertis à Jérusalem, ont dû s'enfuir sous peine d'être lapidés. Donc, c'est une vraie persécution. Et c'était aussi une grosse persécution, on va dire que c'était la plus grande persécution de l'Église, c'était la première déjà, mais ils ont dû s'enfuir pour sauver leur vie. Et c'est aussi grâce à cette persécution qu'ils ont cessé d'avoir une Église uniquement composée de Juifs à Jérusalem, mais qu'ils ont dû éclater et puis aller ailleurs qu'à Jérusalem. Et en allant ailleurs, ben, ils ont parlé de l'Évangile, il y a des églises qui sont nées, puis finalement la persécution, qui était une chose négative à la base, a été transformée un petit peu en bénédiction, puisque des milliers de gens ont pu se convertir grâce à l'expansion des membres de l'Église due à la persécution. Alors, ces persécutions, c'est vrai que c'est difficile. Dans ces 10 pays les plus persécutés, il y a des drames, il y a des difficultés, mais jamais, même en fonction des ratios, jamais l'Église n'a autant été persécutée que maintenant. Nous, on ne s'en rend pas compte. On vit une foi parfois un petit peu bon enfant. On n'a pas besoin de lutter pour notre foi. On n'a pas besoin de revendiquer quoi que ce soit, de se cacher. En Europe, la seule persécution qu'on a au niveau de notre foi, c'est le mépris. C'est tout. Mais dans d'autres pays, c'est leur vie qui... Ce n'est pas le mépris, c'est leur vie. Et c'est important aussi de considérer que cette persécution des croyants, ben, elle va quand même en grandissant, même au niveau du ratio. Et il faut se faire attention aussi. Puis pour ça que c'est aussi important de pouvoir prier. On fait des journées, des collectes pour l'Église persécutée. Je pense qu'il ne faut jamais abandonner. Ce qui est intéressant, c'est que dans les premiers livres, les premiers chapitres du livre des Actes, il y avait des gens en prison. Et ben, les chrétiens, ils n'abandonnaient pas les gens en prison. Souvenez-vous de l'épisode de Rhodes, ils priaient pour qu'ils soient délivrés. C'était les premiers parfois qui étaient étonnés qu'ils soient délivrés. Mais ils priaient pour les prisonniers, ils priaient pour les gens qui étaient, qui avaient des difficultés. Et la persécution n'a jamais été un frein à l'Église. Ça a toujours été un booster. Par exemple, quand Jean et Pierre ont été lapidés, ont été battus de verges parce qu'ils témoignaient Jésus, on voit ça en Acte 4, eh bien, ils se sont dit, Seigneur, tu vois ce qu'ils nous ont fait, remplis-nous de Saint-Esprit pour qu'on puisse y retourner, et puis qu'on puisse être plus fort, et puis qu'on puisse encore plus de guérison et de signes. Et puis le Saint-Esprit est descendu, le lieu est arrivé à trembler, et ils étaient encore plus zélés pour annoncer l'Évangile. Même chose quand Paul allait prêcher à Lystre, il s'est fait lapider. Il s'est fait lapider hein, par des Juifs, donc ils étaient un petit peu spécialistes, les Juifs, pour lapider les gens. Et puis ils l'ont traîné hors de la ville pensant qu'il était mort. Et la chose qu'il a faite une fois qu'il est revenu à lui, un petit peu tout tuméfié, hein, persécuté, qu'est-ce qu'il s'est dit ? J'y retourne. Il est retourné à Listre. Mais c'est un fou, pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Parce que la persécution, c'est toujours une œuvre de l'ennemi qui le trompe. Parce que le chrétien est plus fort que celui qui est dans le monde. Et Jésus dit, prenez courage, vous n'êtes plus du monde, même si vous êtes toujours dans le monde, mais vous pouvez être des plus que vainqueurs. Et puis on voit souvent dans les persécutions que les chrétiens y vivent d'une façon tellement extraordinaire que parfois on en est presque jaloux. Vous comprenez ce que je veux dire ? On dit, waouh, ils ont fait ça, ben dis donc, quel courage. Moi, j'aimerais bien faire ça, mais j'ose pas. L'apostasie de l'Église. Qu'est-ce que c'est l'apostasie de l'Église ? L'apostasie de l'Église, ça veut dire quand l'Église, elle perd ses repères théologiques, puis elle commence à croire n'importe quoi, à faire n'importe quoi, à ne plus, par exemple, croire que Jésus-Christ, c'est le seul sauveur. Que dans l'Église, on peut dire oui, mais les autres religions, elles sont aussi bonnes, elles peuvent aussi accéder au salut, puis finalement, il y a une sorte de syncrétisme, et puis ce n'est pas vraiment, comme Jésus disait, une foi unique. Hein. Il n'y a que Jésus qui peut sauver, finalement, toutes les religions sont bonnes, et puis si même dans le cadre théologique, on accepte ceci, puis qu'on diminue la portée de notre... de nos doctrines, eh bien, on se refroidit, et en se refroidissant, eh bien, on devient un petit peu comme des vierges folles qui vont oublier de se relier au donneur d'énergie, à Christ, et puis on vit un petit peu une foi qui n'est plus celle que Jésus voulait nous donner, mais qu'on s'en contente. L'apostasie, c'est quand on commence à nier, par exemple, que Jésus est le Christ ou qu'il est le seul sauveur, des choses comme ceci. La disparition de toute loi dans le monde par l'apparition de l'Antichrist. On m'avait posé la question, est-ce que tu vas nous parler de l'Antichrist ? Oui, je vais vous parler de l'Antichrist. Et on trouve ça dans 2 Thessaloniciens, hein, cet homme du péché, ce fils de la perdition, c'est l'Antichrist. Et, alors, c'est clair que ce sixième point, eh ben, on ne l'a pas encore vu. Alors, on a dit... C'est Néron, parce qu'on verra dans le livre de l'Apocalypse qu'on peut définir un petit peu qui est cet antichrist grâce au chiffre 666. Et puis en additionnant les lettres de Néron, d'Hitler, on arrive à 666. Et on se disait, ça y est, l'antichrist, c'est lui, je suis sûr. D'ailleurs, c'est prouvé mathématiquement. Et puis finalement, ce sont des croyances que nous avons qui font qu'on est certain d'avoir juste. Et puis on se rend compte que c'est pas du tout juste. J'ai lu un livre qui s'appelle « L'agonie de notre vieille planète », un vieux truc que vous avez peut-être lu, hein, qui disait, il comparait Hitler à l'Antichrist, et disait, Hitler c'est comme une innocente jeune fille qui cueille des fleurs dans un champ, pour montrer la comparaison avec l'Antichrist. Donc des fois on a des repères de violence en disant, c'est pas pire que ça, ça n'existe pas. Donc Hitler doit certainement être l'antichrist. Puis quand on compte les lettres, on regarde leur position dans l'alphabet, etc., on arrive à 666. Il y a des gens qui sont hyper doués pour ça. Mais s'il vous plaît, le jour où l'antichrist apparaîtra, on n'aura pas forcément le temps de compter les lettres. On va... Si on est là. Donc ce point-là, il est important. Parce que si les autres, c'est presque du quotidien, on pourrait se dire que dans... les temps un petit peu reculés, ben, il y avait aussi des guerres, des tremblements et autre chose. Eh bien, l'antéchrist, c'est vraiment une réalité. Jusqu'à présent, les 5 premiers points, il y a souvent. Maintenant, les 6 et 7, l'antéchrist, puis le dernier, l'évangile sera prêché dans le monde entier. Et ça, c'est notre responsabilité, parce que pour l'instant, on était un petit peu passif. Oui, il y a des guerres, c'est pas de ma faute. Des faux Christ, ouf, là, là, gardons-nous, non. La persécution des croyants, Seigneur, protège-moi. L'apostasie de l'Église, ah non, Seigneur, pas moi. L'antéchrist, ah non, non, ça, c'est pas lui. Moi, je suis de ton côté, Seigneur. Hein. Puis tout d'un coup, de passif, où on est un petit peu tributaire des choses qui se passent indépendamment de notre volonté, hein. Des tremblements de guerre, des tremblements de terre, des guerres, des épidémies, des famines, c'est pas nous qui créons ça. Par contre, le dernier signe, il est directement lié à notre responsabilité, qui est, vous évangéliserez la terre, et quand elle sera totalement évangélisé, alors je reviendrai. Et ça, c'est intéressant. Et c'est ce que Jésus disait dans cette grande commission. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et le mot nation, c'est le mot grec qui a donné en français le mot ethnie, qui veut dire, c'est pas simplement les Suisses, mais c'est les Suisses motards, c'est les Suisses allemands, c'est les Tessinois, c'est les Romands, c'est les footballeurs dans un club, c'est toutes des ethnies, les motards, vous voyez ce que je veux dire, les clubs de danse, le hip-hop, ou bien les tricoteuses, ou bien, vous voyez ce que je veux dire, des ethnies, des groupes. Les Italiens d'un endroit, les Espagnols d'un autre, les Arabes d'un troisième. C'est toutes les ethnies, tous les groupes qui se réunissent autour de valeurs qui leur sont propres. Alors ça peut être des religions, ça peut être des façons de faire, c'est des valeurs spirituelles, ou bien c'est des valeurs de n'importe de quel ordre. Ce sont des valeurs qui font qu'un groupe se retrouve, et puis ça devient une ethnie. Et l'Évangile nous propose d'aller vers chacune de ces ethnies dans le monde entier, en commençant par notre propre Jérusalem, et puis à partir de ce moment-là où notre part sera faite, eh bien, on permettra aussi à Jésus de revenir. Donc vous vous rendez compte quelle est la responsabilité, l'importance de l'Église dans le plan de Dieu, de son salut et du retour de Jésus, c'est qu'il compte sur nous pour qu'on puisse faire le travail pour que quand il reviendra, eh bien, un maximum de gens soient sauvés. C'est pas « Seigneur, j'ai mon billet, il n'y a pas de problème, tu peux revenir quand tu veux ». Ça, c'est une croyance aussi. On s'est peut-être fait cette prière « Seigneur, reviens, reviens, j'en peux plus. » Ou bien « Prends-moi. » Mais « Seigneur, reviens, oui, mais Seigneur me dit, Jean-Jacques, parle de Jésus à ton prochain avant. Ah mais non, ça c'est un petit peu trop contraignant, Seigneur. Reviens vite, comme ça, tellement vite que j'ai même pas besoin de prêcher à mon voisin. Et quelque part, on est un petit peu en train de jouer avec Dieu en disant oui, mais non, mais quand même, j'aimerais bien que. Puis ce septième point, c'est l'Évangile est appelé à être prêché à toute la création. Et puis, c'est intéressant, cette fin de verset, « Alors viendrait la fin. » Ce n'est pas l'antichrist, ce n'est pas les famines, ce n'est pas les tremblements de terre, ce n'est pas les faux christs. La fin viendra quand l'Évangile sera prêché à toute la création, c'est-à-dire quand l'Église, l'épouse de Christ, se sera préparée. Et Christ ne veut pas venir chercher une épouse qui n'est pas préparée. Et pour se préparer, eh bien notre responsabilité, c'est cette septième partie. Lisons, on va continuer, lisons le verset suivant, là c'est 2 Thessaloniciens 2, 1, 2. On va voir ce qu'il nous dit. « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, soit par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. » Et je trouve beau cette parole, parce que c'est une exhortation qui est extraordinaire, qui nous dit « Ne soyez pas troublés, ne croyez pas n'importe quoi, ayez du bon sens, s'il vous plaît. » C'est ce que Paul dit aux Thessaloniciens. Et puis, quelque part, il nous demande de rester prudents quant aux événements prophétiques que nous pourrions reconnaître aujourd'hui, du genre « Trump est là, ouvrons le livre de l'Apocalypse pour savoir si c'est lui qui est cette bête avec les couronnes et puis qui va révolutionner le monde. » Vous voyez ce que je veux dire? Jusqu'à il y a 3 mois, puis tout d'un coup, pouf! Oui, il y a un prophète important dans le monde qui a dit que Trump c'était l'antichrist ou un précurseur ou que si ou que ça. Mais s'il vous plaît, soyez des chrétiens de bon sens. Notre conversion n'annihile pas notre intelligence, elle la révèle, elle la sublime parce qu'elle est éclairée par l'Esprit de Dieu. Elle est renouvelée par le Saint-Esprit de Dieu. Elle n'est pas anéantie puis endormie. Et parfois, nos croyances font que notre intelligence est endormie, puis on croit n'importe quoi. Mais le Saint-Esprit devrait nous aiguiser notre intelligence pour dire, t'es sûr? Oui, je suis sûr. Bon, ben, garde ça pour toi. Moi, je continue à croire ce que je pense dans les limites de ce que la Bible me propose. Les disciples, ils voulaient savoir, mais quand est-ce que tu reviendras? Plusieurs fois, ils l'ont dit. Déjà en Matthieu 24, le verset 3, il a dit, ses disciples, hein, on voit la suite dans le verset, lui posèrent en particulier cette question, dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de son avènement et de la fin du monde? Or, ils n'avaient pas écouté, parce que Jésus venait de leur dire. Mais, et puis après, il leur redit les choses. Puis aussi en Acte 1, 6, les disciples, ils voyaient Jésus qui est ressuscité, puis il dit, allez, bon, maintenant, c'est bon, hein, t'es mort, t'es ressuscité, dis-nous maintenant, c'est quand? C'est quand? Quand est-ce que tu reviendras? Et puis Jésus dit, mais c'est pas à vous à connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Et il leur dit, vous, en attendant, quoi? Qu'est-ce que vous devez faire? Alors on s'est vite arrêté en disant, ah ben, vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Oui, mais ça, c'est que la première partie, c'est que la part de Dieu, quelle est la part de l'homme? Qu'est-ce que vous devez faire, vous? Eh bien, vous devez évangéliser le monde pour que ce retour de Jésus puisse être fait avec la participation de l'Église. Et ils avaient bien compris, puisque le premier jour, paf, 3000 conversions. 3000 baptêmes, 3000 baptêmes dans le Saint-Esprit. C'est pas mal pour un premier jour. Après, malheureusement, ça a un petit peu diminué, surtout dans les 20e siècle, 21e siècle. Il n'y a pas autant. Mais quelque part, ils avaient reçu cette mission, ils avaient compris que ce n'était plus à eux à chercher le temps, mais ils devaient être actifs en attendant ce temps. Et c'est ce que les Thessaloniciens n'avaient pas compris. Les Thessaloniciens, Paul est resté juste 2 semaines, 3 week-ends chez eux, puis il a implanté une église. Puis il leur a dit, Jésus va revenir. Puis ils se sont dit, super, nous les Thessaloniciens, on a tout compris, eh ben, on va attendre. Donc ils ont été se reposer, en attendant le retour de Jésus. Puis Paul, il a entendu ça, il dit, il se passe quoi là? Ils n'ont pas compris. Il va écrire une deuxième lettre en disant, eh oh, vous n'avez pas bien compris, gardez votre bon sens. En attendant, travaillez dans le cadre de l'Église à toucher autour de vous les gens qui ne connaissent pas encore Dieu, et puis vous serez actifs dans cette attente et non pas passifs. Alors, Jésus va donner des choses intéressantes. Il ne va pas vous dire, il reviendra le 19 février 2037, mais il nous a donné 4 choses à vivre. D'abord, il nous a demandé d'attendre ce retour dans une attitude, rester dans la paix de Dieu, qu'il nous dira dans ce passage 24. Ensuite, une mission, on l'a bien compris, évangéliser la terre entière. On voit dans Matthieu 28, le verset 19, Jésus leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. Allez, faites de toutes les nations des disciples, etc. et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. » Donc c'est vraiment cette dimension d'en faire des disciples. Et puis ensuite, il leur demande d'être disponibles, c'est-à-dire soyez toujours prêts à l'attendre. Et dans ces paraboles, dans ces explications, Jésus va parler des vierges qui doivent attendre. Il va parler d'un homme qui doit être saint quand son serviteur va arriver. Il va parler des mines, des talents, ces paraboles, des choses. Il va expliquer très très souvent qu'une personne qui a accepté Jésus est appelée à rester disponible et prête à l'attendre. Et ça, c'est intéressant. Et puis enfin, un témoignage. Soyez comme des flambeaux, hein, c'est mon fils, il aime bien ça, puisqu'il est un scout, hein, dans une génération perverse et corrompue. Donc faites la différence dans votre vie. On doit voir, en m'attendant, vous devez montrer que vous êtes des chrétiens. Et ça, c'est compliqué. De pouvoir avoir une conduite saine, une piété saine, sans tache, sans défaut, comme la Bible dit, parce que très souvent, ben, on ne sait pas trop être trop biblique, trop spirituel, il faut quand même être un petit peu humain. Un petit mot sur l'Antichrist, puisqu'on en veut, en passant. Hein. Alors d'abord, il ne faut pas dire antéchrist, mais il faut dire antichrist. Certaines Bibles, malheureusement, ils ont mis le mot antéchrist, et alors qu'il faut dire antichrist. C'est important. Le mot grec que l'on trouve dans la Bible, le mot grec, c'est antichristos, qui veut dire, anti veut dire contre, contre le Christ, antichrist, ou adversaire du Christ, ou qui se met à la place du Christ. C'est une partition grecque, anti. Anté, ça veut dire avant. Les pattes antérieures, hein, c'est les pattes avant, par analogie à postérieure. Et c'est un mot latin, anté, une locution latine. Donc, on ne peut pas créer un mot avec une locution latine et puis une base grecque. Alors, on peut le faire, on l'a fait. Antéchrist. Ça voulait dire, en fait, Jésus vient, enfin, l'antéchrist vient avant le Christ, avant son retour. Ce qui est vrai, théologiquement, c'est vrai. Mais étymologiquement, ça n'a pas de sens de dire antéchrist parce que, déjà, la Bible, elle utilise le mot antichrist que 5 fois, particulièrement sous la plume de Jean dans ses lettres, et dans 4 versets. Et puis, ces 5 fois, eh bien, c'est toujours antichrist. Ça veut dire quelqu'un qui est contre le Christ, qui est adversaire du Christ, qui veut prendre sa place. Et puis, même s'il est hanté, Christ, ce n'est pas un mot qui est judicieux de dire. C'est une erreur, c'est une croyance aussi, une fausse croyance. Alors, vous avez les versets qui sont ici, là, qui parlent de l'antichrist. Et on les trouve dans 1 Jean 2,18. Je vais voir si je retrouve mes passage, là j'ai tout perdu. On voit en Jean 18, voilà. Prendre ici. Donc, 1 Jean 2,18, petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist, voyez, j'ai repris une version, et puis c'est la version de où j'ai pris d'internet pour faire un copier-coller, il mettait antéchrist. Pourquoi? Parce que la Bible de Genève, elle reprend antéchrist. Alors que même la Vulgate, qui était une Bible écrite en latin, gardait le mot grec antichrist, antichristos. Et il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Donc j'ai mis ce verset pour montrer que dans les Bibles, on met antéchrist, mais c'est quelque part, on va dire, bon, ouais, c'est une erreur, mais ce n'est pas une erreur théologique. Ce n'est pas une erreur spirituelle où vous allez perdre votre salut si vous gardez ça. C'est juste, au niveau de la sémantique, c'est une erreur. Et puis ensuite, 1 Jean 2,22, donc on va reprendre le véritable sens. Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-ci est l'antichrist qui nie le Père et le Fils. Et puis on retrouve la même chose en Jean 4,3. Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est Christ? Celui-ci est l'antichrist qui nie le Père et le Fils. Donc deux fois la même chose. Et puis, le dernier, 2 Jean 7, dans le deuxième épître de Jean, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent pas point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui-ci, celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Et vous voyez, j'ai mis antichrist, j'ai voulu me changer, et bien c'est un mot que le dictionnaire il reconnaît pas. C'est marrant, hein? Parce que même dans la connotation normale, eh bien, on parle plutôt d'antéchrist. Alors, je ne vais pas pleurer, ou moins vous aimer si vous continuez à dire antéchrist. C'est juste un sens du mot. Donc, il y a deux textes qui parlent de l'antichrist, sans expressément nommer dans un des textes, puisque c'est seul Jean qui veut utiliser ce mot dans ses épîtres. Donc Paul va l'écrire dans 2 Thessaloniciens 2, on l'a lu tout à l'heure, puis Jean va l'écrire dans Apocalypse 3, et puis ce premier texte de 1 Thessaloniciens 2, ben, je l'ai lu tout à l'heure, qui disait ceci, le fils de perdition, vous vous souvenez, on a lu si on pouvait le remonter plus haut, voilà, encore un petit peu plus haut, voilà, Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître, alors là, c'est l'Antéchrist, l'Antéchrist ici, l'homme du péché, le fils de la perdition, mais il n'est pas nommé comme étant Antichristos, mais c'est quand même lui, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu ou de ce que l'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas de ce que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse consentant, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. Et alors apparaîtra l'impie, encore une fois, c'est l'Antichrist, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Ce qui veut dire que quand Jésus reviendra, il va anéantir l'Antichrist. Puis vous avez aussi le livre de l'Apocalypse, qui est aussi donné par Jean, et étrangement, Jean ne va pas utiliser ce mot de Antichrist. En fait, ces deux textes annoncent une période particulièrement grave, troublée, sombre à la fin des temps, où un personnage, et quand je dis personnage, je veux dire une personne physique, humaine, va diriger une grande révolte contre Dieu, persécuter les chrétiens à l'échelle planétaire. Il y a deux théologies qui s'affrontent. La première théologie dit que Jésus, que l'Antichrist sera d'origine juive, simplement parce que les Juifs aimeraient reconstituer ce troisième temple pour retrouver leur grandeur, et puis que c'est là que l'Antichrist s'assiérait. Et puis, l'autre théologie dit que l'Antichrist viendrait de l'Église. Et qu'on a mis plusieurs papes comme Antichrist, déjà, pour montrer que c'était une Église qui disait être apostate. Et puis, pour l'instant, donc, on en est toujours à ces demoiselles qui cueillent des fleurs dans les champs, hein, si jamais. Alors, on ne sait pas vraiment, on sait que ça sera quelqu'un de spirituel, qui aura une dimension spirituelle, soit juive, soit chrétienne. On ne sait pas vraiment, mais on sait que ça ne sera pas une entité, par exemple, comme l'islam, ou bien comme vous voyez, des choses comme ça. Mais ça sera une personne physique qui sera le meneur de la grande révolte contre Dieu puis de la persécution terrible contre les chrétiens. Et cet homme, cette personne va avoir un énorme pouvoir. Dans Apocalypse 13 et Apocalypse 14, on va voir que le pouvoir va lui être donné sur la terre, que non seulement il aura le pouvoir politique, mais il va faire des miracles. Va faire des choses extraordinaires, des prodiges sur la terre et dans le ciel, à tel point que les gens vont vraiment croire qu'il est Dieu et vont se mettre à l'adorer. C'est un petit peu son but, c'est ce que le diable voulait faire avec Jésus lors de la tentation. Et quand on lit Apocalypse 13 et 14, vous verrez qu'il y a deux bêtes. Une bête qui cherche justement l'adoration, qui est l'Antichrist, puis une autre bête qui pousse le peuple, le monde, à adorer cette première bête parce qu'il fait des miracles, parce qu'il fait de grandes choses, parce qu'il regroupe les zones, qui leur donne une identité, une unité, une raison de vivre, pour se débarrasser des vieilles croyances du passé. Et cet homme, c'est l'Antichrist. Et quand Jésus reviendra sur terre, une des premières personnes qui sera anéantie, c'est l'Antichrist. D'ailleurs, mon fils me disait, en tout cas, je sais que l'Antichrist, lui, il ne sera pas avec Jésus pour l'éternité, vu son profil. Donc ça, c'est un petit peu l'Antichrist. Donc on en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais j'aimerais parler d'abord de comment Jésus va revenir. Je vais voir un petit peu l'heure qu'il est. On va encore faire 10 minutes, puis après on fera une petite pause. Hein. Donc, le mode de sa venue, comment est-ce qu'il va venir? Alors, j'ai plein de versets à vous proposer, on ne va pas forcément tous les lire, mais sachez que Jésus va revenir d'une façon personnelle. Ce n'est pas petit à petit, ce n'est pas en cachette le jour de sa mort, de notre mort ou de notre conversion, c'est pas déguisé en esprit le jour de la Pentecôte, mais il va revenir physiquement, ça sera vraiment ce Jésus qui est monté au ciel, il va redescendre, comme le livre des Actes le dit. Ensuite, ce sera une dimension littérale, ce n'est pas un symbole, ce n'est pas une image. Oui, Jésus reviendra, ou bien, ah, tu verras, la santé reviendra. Hein? Ce n'est pas une image, c'est une réalité, il reviendra littéralement. Donc, physiquement et littéralement, Jésus, qui a cheminé avec ses disciples pendant 3 ans sur les terres de Judée, va revenir, ce sera le même, ce sera le Seigneur de gloire, mais il viendra plus comme agneau de Dieu qui vient enlever le péché du monde, il viendra comme lion de Juda pour régner sur la terre. Et c'est là qu'on voit un petit peu ces différents passages de l'Ancien Testament, lion de Juda, hein, où on se rend compte que c'est vraiment ce Jésus qui revient avec gloire, avec puissance, avec force, pour d'abord écraser l'Antichrist, mais aussi pour pouvoir régner sur la terre. Ça sera visible, tout œil le verra. Alors, au début, c'était un petit peu compliqué, mais on pourrait se dire qu'avec la technologie aujourd'hui, hein, vous avez une application qui date que d'une année qui s'appelle Periscope, où je peux vous filmer avec mon appareil, avec mon attel, et puis dans le monde entier, tout le monde en temps réel peut voir ce qui se passe. Hein, c'est impressionnant. On arrive à une technologie maintenant où tout ce qui peut se passer dans le monde entier, en temps réel, on peut le voir. Et jamais ça n'avait existé avant. Et un verset tel que on le lit dans le livre des Actes ou dans l'Apocalypse qui disent que tout œil le verra, c'est impossible jusqu'alors. Mais maintenant, on a la technologie pour avoir absolument ce verset qui peut techniquement se réaliser. Alors, ce n'était pas simplement une idée, tout homme le verra, mais vraiment, on a la technologie maintenant pour le vivre. Et puis, elle sera glorieuse. Hein. Ce ne sera pas ce Jésus qui vient dans une mangeoire, dans une crèche, dans l'ombre d'une ville agitée qui ne fait pas attention à lui, mais il viendra d'une façon glorieuse. La Bible dit qu'il va tellement venir glorieusement que le paysage de Jérusalem va changer, il y aura des tremblements de terre, il y a des vallées qui vont être comblées, il y a des montagnes qui vont bouger, enfin, ça sera vraiment un gros truc, quoi. Il va venir d'une façon glorieuse. On va faire une petite pause, mais avant, j'aimerais vous mettre en garde. Parce que maintenant, ça, c'est plus ou moins ce qui est conventionnellement compris comme étant assez facile à assimiler. Maintenant, on va travailler sur des choses qui sont la façon dont Jésus va venir, le millénium, les tribulations. Et puis, on est une vingtaine, mais on a peut-être une vingtaine d'idées différentes. Alors, je ne suis pas venu pour vous lyncher, puis vous n'êtes pas venu non plus pour me lyncher. Ce que je veux dire, c'est que ce cours, maintenant, la suite du cours, elle va nous présenter le danger de vous emballer pour une interprétation des textes que je vais vous donner, et je vais faire exprès de vous emballer pour vous dire, ah ben ça c'est vrai, ça c'est la Bible qui dit c'est vrai. Puis après je vais dire autre chose qui va contredire la première, puis vous allez dire, ah ben c'était pas ça alors la première chose, c'est la deuxième qui est vraie. La première, je me croyais, mais maintenant que j'ai le choix, c'est la deuxième. Et puis ensuite, je vais vous dire une troisième chose, puis vous allez dire, mais je ne comprends pas, parce que la troisième, elle semble plus vraie que les autres, mais les autres, elles sont aussi plus vraies. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je m'emballe pour un truc, puis que je démolisse tous ceux qui ne comprennent pas comme moi, ou bien il faut que j'abandonne en disant, mais c'est trop compliqué, ça, c'est trop compliqué. Alors le but maintenant, c'est donc qu'on puisse voir que cette eschatologie générale, elle est complexe. Et puis nous devons, comme Paul le disait dans 2 Thessaloniciens, avoir cette humilité pour reconnaître parfois de nous arrêter dans notre quête de savoir les choses et de simplement dire, je ne sais pas. Et je peux m'interroger, mais je n'ai pas la réponse et je n'ai pas toutes les réponses. Et personne n'a toutes les réponses, parce qu'autrement, on serait Dieu, et je ne suis pas Dieu. Donc voilà, mais je n'ai pas toutes les réponses. Alors, on doit reconnaître qu'on ne sait pas bien ce que c'est l'eschatologie, qu'on ne comprend pas tout, qu'on est un petit peu déphasé, que les textes qui semblent clairs à la première lecture, quand on les met avec d'autres, ça devient obscur, et qu'il n'y a pas une eschatologie, une seule, mais plutôt des hypothèses eschatologiques qui ne sont ni fausses ni justes. Simplement, elles essayent un petit peu de cerner le sujet en espérant que cette chose se trouve dans la Bible. Alors, vous vous souvenez de cette histoire, vous avez déjà entendu, hein, de trois personnes ou quatre personnes, on leur bande les yeux, puis on leur dit, on te propose quelque chose devant toi, et puis tu dois nous dire ce que c'est. Puis en fait, quelqu'un, il a les yeux bandés, puis il dit, ah, je vois, je suis en train de toucher comme une liane. Assez fine, mais une liane. Et puis l'autre dit, mais non, c'est pas une liane. Moi, j'ai l'impression de toucher un tronc d'arbre. Puis les trois, ils disent, mais vous n'êtes pas du tout. Moi, j'ai l'impression de toucher une sorte de drap. Puis le quatrième, il dit, mais non, moi, je suis en train de voir une sorte de truc qui bouge, qui est articulé. Et puis, mais non, il n'y a rien qui est articulé. Mais non, c'est pas un drap. Mais c'est pas. Puis en fait, ils sont tous les quatre en train de toucher un éléphant. Un, il touche la queue, c'est comme une liane. Un autre, il touche le pied. C'est comme un tronc. Un troisième, il touche l'oreille, il dit, ah, c'est comme un drap. Puis le dernier, il touche la trompe, il dit, ah, c'est articulé, ça bouge, c'est vivant. Et ils ont quatre visions différentes qui sont justes, mais ils ne savent pas que les autres disent la vérité. Et c'est un petit peu comme ça, l'eschatologie. C'est un gros éléphant. Et puis on n'est pas quatre, on est 2 millions, 3 millions, 10 millions, 50 millions, à essayer de toucher cette eschatologie. Dire, ah, mais moi, je vois un truc qui est comment. Ah ben non, moi, je vois différemment. Ah ben, tu te trompes. Mais non, parce que moi, je trouve autre chose. Et puis on en est là. Donc aujourd'hui, on va travailler sur cette venue de Jésus après, et puis sur la tribulation, on va s'arrêter là. Et puis vous allez être étonnés de voir que vous avez une bonne eschatologie, parce qu'il faut le dire, souvent on a une très bonne eschatologie, mais elle ne va pas forcément aller dans le moule de votre camarade à côté de vous. Simplement, on en est à toucher un éléphant spirituel qui s'appelle eschatologie, mais il faut toucher l'éléphant, hein, il ne faut pas toucher autre chose. Et on va aborder après la pause les différents éléments qui nous vont faire peut-être avoir une notion un petit peu plus globale de ce que c'est l'eschatologie. Bonne pause. Voilà, nous allons maintenant passer à cette deuxième partie de cette matinée. Et on va voir les phases de la venue de Jésus-Christ sur la terre. Et on va comprendre que cette venue va se faire en deux temps. Parfois, il y a un petit peu une confusion dans ce que l'on entend par venue de Jésus-Christ. D'abord, il y aura une partie qui sera dans les airs. Et puis ensuite, il y aura une partie qui sera sur la terre. Donc, d'abord, la venue de Jésus-Christ dans les airs. On comprend, en lisant les textes de la Bible, que le temps de l'enlèvement, ce n'est pas forcément le temps du retour de Jésus. Il y a des choses qui vont se passer, et puis on comprend que Jésus va revenir, enfin va descendre du ciel pour reprendre les siens. Petite allusion à la dernière fois, qui sont les siens? C'est le corps des justes juifs emmenés hors du séjour des morts à la résurrection de Jésus. C'est les corps des chrétiens morts en Christ et c'est les chrétiens toujours en vie lors de sa venue, vous et moi, j'espère. Enfin, quand je dis j'espère, ça ne veut pas dire que j'espère que vous serez enlevés. Ce n'est pas ça, c'est-à-dire que j'espère qu'on vivra ces moments parce que ce sont des choses qui sont extraordinaires. C'est ce qu'on appelle la première résurrection. Tous ceux qui auront part à cette première résurrection ne comparaîtront pas au jugement dernier, nous rappelle Apocalypse 20, le verset 6. Alors on va lire quelques versets pour comprendre un petit peu cette venue sur les airs. Et puis, de nouveau, comme Paul, il avait bien compris que les Thessaloniciens, ils avaient besoin d'être enseignés, et bien on va reprendre dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 13 jusqu'au 18. Voici ce qu'il est dit. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Intéressant, souvent, qu'on utilise la fin de ce passage pour des enterrements. C'est un domaine de l'eschatologie. On se console par ces paroles de non seulement la résurrection de Jésus, mais aussi de son retour. Et puis en Corinthiens 15, à partir du verset 50 jusqu'au verset 57, « Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'héritera pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. » La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Deux fois l'heure. Et puis le dernier, donc on voit un petit peu ici qu'il y a quelque chose qui va se passer. Il y a les morts qui vont ressusciter, puis les vivants, les chrétiens vivants, ils vont être transformés. On appelle ça l'enlèvement. À travers plusieurs paraboles, les 10 vierges, les talents, les mines, les noces, Jésus nous donne un sérieux avertissement sur la qualité de notre salut et nous appelle à toujours être prêt et disponible pour être jugé apte à vivre la suite des événements avec lui. C'est bien dit, hein? On sent le travail. L'Église va être enlevée dans les cieux et ira à la rencontre de Jésus pour retourner au ciel dans la maison du Père. C'est Jean 14, 2 et 3 qui le dit. Si je retrouve ce passage qui dit voilà. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, ce temps dans l'enlèvement, il se passe, si vous voulez, en 4 phases. La première phase, c'est sur la terre, puis après, ça sera dans les cieux. Mais on va d'abord voir ce qui se passe sur la terre. Et c'est un verset qui est un petit peu compliqué, où là, les théologiens ne s'écharpent pas, mais ne sont pas du tout d'accord. Parce que Paul, il va parler à demi-mot, toujours aux Thessaloniciens, puis il va leur dire des choses un petit peu compliquées. Dans 1 Thessaloniciens, il est dit que Jésus va revenir enlever ce qui le retient. Et je répète ces paroles de 1 Thessaloniciens 2, verset 1 à 8, en tout cas le verset 6. « Et maintenant, vous savez bien ce qu'il retient pour qu'il ne se révèle qu'en son temps. » Alors, c'est un peu compliqué, hein, on ne sait pas qui, quoi et comment. Et puis le verset suivant, « Il faut que ce qui le retient ait encore disparu. » Alors, on est en plein dans cette théologie de l'enlèvement. Donc, il faudrait savoir ce que c'est ce qui le retient, puis qui est ce « il » pour qu'il puisse faire des choses. Alors, les théologiens, ils trouvent que c'est, ils ont raison, que c'est un passage difficile à comprendre. Ce il, ce qui est-ce. Alors pour le il, c'est assez facile. Ce il, c'est l'antichrist. Pour le ce, donc Jésus est venu enlever ce qui retient l'Antichrist d'agir, d'accord ? Il reste le ce. C'est quoi ce ce ? Qu'est-ce qui empêche l'Antichrist d'agir sur la terre ? Alors, bien. Alors, pour ça, les théologiens sont divisés. Nous avons déjà parlé de ce qui est un penchant de, d'une doctrine. Donc, ils disent, certains disent que c'est l'Empire romain et son système de pouvoir qui, finalement, c'est la loi, c'est l'autorité politique sur place qui, avec la loi, oblige les gens à s'y soumettre puis retient l'Antichrist d'agir. D'autres, dont nous faisons partie, tous les deux en tout cas, parlent de ce comme à la fois quelque chose et quelqu'un. Et les pronoms grecs peuvent donner cette double interprétation de quelque chose et quelqu'un. Ce, pour moi, mais encore là, hein, comme je dis, si vous n'êtes pas d'accord, il ne faudra pas me tuer. Pour moi, c'est le Saint-Esprit et c'est l'Église. Le quelqu'un, c'est le Saint-Esprit. Le quoi, le quelque chose, c'est l'Église. Comme le Saint-Esprit a marqué le début de l'Église à la Pentecôte et que l'Église va être enlevée, il est normal que le Saint-Esprit, dans sa dimension dynamique, charismatique, va disparaître de la terre, puisque ne sont le temple du Saint-Esprit que les chrétiens. Mais le Saint-Esprit ne va pas disparaître de la terre, parce que le Saint-Esprit est Dieu, et Dieu est omniprésent, et avant que le monde soit peuplé de tout ce qui grouille, etc., eh bien, le Saint-Esprit était déjà là, et qu'il se mouvait à la surface de la terre, donc il est déjà là avant même que l'homme soit présent. Donc, ce n'est pas une question d'homme qui fait que le Saint-Esprit soit ou pas sur la terre, il est sur la terre, parce que Dieu est omniprésent, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais c'est plutôt le ministère du Saint-Esprit qui est un ministère de puissance, qui est lié à l'Église, qui empêcherait l'Antéchrist d'avancer parce que, si vous voulez, c'est comme les ténèbres qui ne peuvent pas avancer parce qu'il y a la lumière. Quand je souffle la bougie, eh bien les ténèbres tout de suite envahissent la pièce. Mais tant qu'il y a la lumière, ils sont un petit peu contenus. Vous comprenez l'image ? Et donc ce pourrait être le Saint-Esprit et l'Église. Si je reprends cette forme avec tous ces pronoms puis que je la dépronominalise, ça donnerait un petit peu un verset comme ceci, que j'ai un petit peu arrangé à la mode Jean-Jacques Levis, pas pour changer le sens, pas du tout, mais pour rendre la compréhension plus évidente. Et maintenant, vous savez bien que l'Antichrist ne peut pas se manifester tant que l'Église, le temple du Saint-Esprit, est sur terre. Ce n'est qu'une fois l'enlèvement que l'Antichrist se révélera. Il faut que le Saint-Esprit, dans l'Église, qui retient encore l'Antichrist, ait disparu. Donc là, ça a du sens. Mais j'ai la moitié des théologiens qui vont crier au scandale si je dis ça, parce qu'ils croient vraiment que c'est le pouvoir sur place, le pouvoir politique, qui, avec ses règles strictes, avec ses dimensions de loi, eh bien, empêche l'Antichrist de faire ce qu'il veut. Il serait limité par les lois. Mais si les lois tombent, eh bien, il arrive, c'est-à-dire les gouvernements tombent, il arriverait facilement à prendre la place et à se présenter comme étant celui qui va résoudre le problème politique sur le monde entier et puis qui va se mettre au-dessus des lois puisqu'elles seraient tombées. Donc il y a ces deux aspects. Moi je pense, et puis les penchants pour le pouvoir politique pensent que Paul parle à demi-mot pour pas qu'il se fasse prendre
par les Romains qui, alors qu'il écrivait, ben, étaient sur place, puis étaient les chefs. Donc il se dit, mais est-ce que je ne veux pas me créer des ennuis? Donc je vais parler à demi-mot. Les Thessaloniciens le savaient bien, vous savez bien de quoi je parle, il leur dira. Alors là, on ne dit pas, mais c'est les politiques. Alors certains pensent ça et ils ont peut-être raison. D'autres pensent que une dimension spirituelle, hein, un pouvoir spirituel qui est dans les mains de l'Antichrist, eh bien, devrait aussi être contrebalancé par une dimension spirituelle qui serait l'Église dans laquelle le Saint-Esprit peut faire de grandes choses. Voilà. Donc, à partir de maintenant, vous pouvez croire ce que vous voulez. Vous serez toujours les bienvenus dans l'Église. En tout cas, pour cette doctrine-là. Alors, ça, c'est ce qui se passe sur la terre. Maintenant, il y a des choses qui se passent dans les cieux. Donc, Christ ne va pas revenir tout de suite, quelque part. Il vient, et puis c'est comme s'il est du ciel, et puis il s'arrête entre deux étages. Et puis nous, on va monter, c'est l'enlèvement, on va partir de ce corps physique, puis on sera transformé, et puis on va rejoindre Christ dans les airs. Et puis une fois qu'on a rejoint Christ dans les airs, eh bien on va monter au ciel avec lui. C'est un petit peu cette parabole des vierges qui est intéressante. C'est-à-dire qu'on attend, ces personnes, elles attendent l'époux, puis une fois qu'elles ont attendu l'époux, elles le rejoignent et ils partent ensemble. C'est un petit peu... chacun fait la moitié du travail, du chemin. Vous connaissez cette histoire. Hein, je raccompagne celui que j'aime jusqu'à sa mort, puis après il me raccompagne, puis après on fait la moitié, puis après, etc. Puis quand on téléphone, non, raccroche, non, c'est toi qui raccroche en premier, mais non, c'est toi, mais vas-y, mais je t'aime encore, mais raccroche. Alors, trois, je raccroche, un, deux, trois, ah, tu n'as pas raccroché. Des choses comme ça, où on veut vraiment pas faire chacun la moitié, tellement qu'on s'aime. Et ben là, c'est la moitié du chemin chacun. Christ descend la moitié, puis l'Église, elle monte, c'est l'enlèvement. Puis après, tous ensemble, on va avec le Christ. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les cieux? J'en ai dit deux, trois mots la dernière fois. D'abord, il y a un festin. Et je trouve intéressant le fait que la première chose à laquelle Dieu nous invite, c'est de manger. Ceux qui vivent d'une façon austère toute leur vie, ben, il faut qu'ils lisent un petit peu plus Apocalypse 19, versets 7 et 9, à 9, qui dit vraiment que ben, on va participer à un festin, et puis ça, un nom, c'est les festins de l'agneau, les noces de l'agneau. Alors, je ne sais pas ce qu'on va manger. Je ne pense pas qu'on va manger de l'agneau. Dans l'Apocalypse, les seuls animaux qui sont mentionnés, c'est les dragons et les quatre chevaux. Mais je ne sais pas ce qu'on va manger, mais ça sera certainement bon. Ce ne sera peut-être pas forcément du cheval ou du dragon, mais ça sera certainement excellent. Ce sera un menu divin. Deux Corinthiens 5, 6 à 10 parlent cette fois-ci de quelque chose qui est un petit peu plus compliqué à réaliser, c'est que, comme je vous l'ai dit la dernière fois, on va être jugé. Donc, voyez l'histoire, on arrive, on mange, puis après on est jugé. Comme ça, on n'a pas l'appétit coupé. Non, mais Dieu fait bien les choses, je trouve. Et puis, ce tribunal de Christ, eh bien, voici ce que nous dit 2 Corinthiens 5, 6 à 10. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Nous sommes pleins de confiance, on l'a compris. Et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc là, il y a un jugement, c'est ce qu'on appelle le jugement des croyants. Il y a un premier jugement auquel on a échappé, c'est le jugement à la croix,
où on a déjà été jugé par Dieu et pardonné pour nos péchés et gracié, Christ a pris la place. Et le premier ou le deuxième jugement auquel les chrétiens vont avoir lieu, que les chrétiens, c'est le tribunal de Christ. Où, en fonction de ce que nous aurons fait dans notre vie, nous devrons rendre compte pour le bien que nous avons fait, pour le mal que nous avons fait. Rien que ça, ça nous encourage à plus faire le mal. N'oublions pas que nous sommes l'ouvrage de Dieu, c'est Éphésiens 2 qui le dit. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et ces œuvres bonnes, ben, ce sera aussi ça pour lequel nous serons jugés si on les a faites ou pas. Et c'est intéressant de savoir que finalement, ce n'est pas parce que je suis sauvé que tout m'est dû, que je peux faire n'importe quoi. Il y a aussi une attente de Dieu au niveau de ce que j'aurais fait. De toute façon, on sera sauvé. Ça, il n'y a pas de souci, on l'est déjà. Mais le tribunal sera l'occasion de pouvoir nous donner des récompenses pour nous encourager. On le voit dans les différentes paraboles des mines et des talents, parce que quelqu'un a travaillé et puis a fait valoir ce que Dieu lui avait donné, eh bien, il a eu des récompenses. Alors, nous avons dans la Bible un certain nombre de récompenses que nous pouvons penser, voir et vivre ou recevoir dans ce, après ce tribunal de Christ. Et on le trouve ceci dans 1 Corinthiens 3, versets 11 à 15, qui dit ceci. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui était posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car ce jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ça veut dire qu'à un moment donné, Dieu va y juger un petit peu ce que l'on a fait. On sera tous sauvés, il n'y a pas de problème, on sera tous avec Jésus pour l'éternité. Mais il y aura certains qui auront peut-être des récompenses. Alors il y a des croyances. Encore une fois, quand je dis le mot croyance, ce n'est pas tellement positif, hein, c'est parfois un peu péjoratif, que vous avez peut-être depuis longtemps, qu'il faut peut-être vous débarrasser, parce que ce n'est pas forcément très intéressant de garder ce genre de croyances. Alors, on dit, ma récompense, ça sera un fil d'or autour de ma robe blanche que j'aurai. Ou des ailes avec des parures d'or. Ou bien j'aurai une robe qui sera plus blanche que les autres. Et des choses comme ça, des croyances que l'on a qui viennent de nulle part. Et puis qu'on est certain que si j'amène à l'évangile 10 personnes, et ben j'aurai une double rangée de fils d'or sur le bas de ma robe blanche, et puis pour que tout le monde voie pour l'éternité combien j'ai bien travaillé quand j'étais sur la terre. C'est des croyances, ça repose sur rien du tout. Les récompenses qui sont données, on le trouve dans 4 versets. Apocalypse 2, verset 10, qui dit ceci, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir », ça c'est déjà un bel encouragement, « Le Seigneur ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Donc on voit les récompenses possibles. Hein. Alors ce n'est pas forcément les récompenses qu'on aura dans les cieux, mais quand même. Mais ça nous donne un petit peu la dimension des récompenses qu'on aura. Une couronne de justice qu'on trouve aussi dans 2 Timothée 4,8, où il est dit « Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Donc on est vraiment dans un verset eschatologique qui parle de la fin des temps, où on parle de récompense, couronne de justice. Une couronne incorruptible pour 1 Corinthiens 9, « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Nous le faisons pour une couronne incorruptible. » Et puis on pourrait se dire, mais on recevra que des couronnes. Parce que franchement, ça vaut pas le coup, quoi. Eh bien, justement, Luc 19, verset 17, il est parlé de la parabole des mines, où, étrangement, j'en avais parlé quelques mots la dernière fois, quand la personne qui a 5 mines, qui est une valeur d'argent, hein, les mines, C'est pas une mine de charbon, une mine de diamant, hein, c'est pas les mines dans lesquelles on va creuser sous la montagne, mais c'est une valeur monétaire, comme si on vous disait les billets de 1000 francs, ou bien voilà, un chèque de 1 million. Eh bien, celui qui a fait valoir ces 5 mines, Dieu lui dit, ben, on va le lire, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu es fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Et puis, un autre, on aura 5. Et puis, on se rend compte que cette parabole des mines induit l'idée que Jésus va nous donner des villes pour gouverner, pour y régner. Puis on se dit, mais quand, franchement, quand, durant ma vie, je vais pouvoir régner comme étant sur une ville, ou sur deux villes, ou sur 10 villes? C'est pas possible, c'est n'importe quoi, ces versets bibliques. Tout à fait, c'est absolument n'importe quoi, sauf dans une dimension eschatologique, où si je crois que le retour de Jésus va s'accompagner de l'Église, et puis que Jésus va descendre sur cette terre, et bien sur cette terre, il y aura la possibilité de régner avec le Christ, et que, tout naturellement, ce verset peut s'inscrire sans problème dans cette gouvernance du monde avec l'Église, qui, en fonction des récompenses et du travail qu'ils auront fait durant leur vie, pourront avoir un certain nombre de responsabilités sur la terre et le gouvernement, par exemple, d'un certain nombre de villes. Alors, ça, oui, c'est dans le millénium. Alors, on verra sur ceux qui croient au millénium, parce qu'il y a encore aussi des différentes doctrines à ce niveau-là, mais on verra ça la semaine prochaine. Donc, c'est dans ce temps donc, du millénium, après le retour de Jésus. Donc, on n'est pas habitué tellement à parler de ça. Ça nous paraît un petit peu bizarre. Moi, après ma mort, je vais régner sur la terre avec Jésus, je serai gouverneur, ou etc. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de comprendre ces trois choses dans les cieux et une chose sur la terre. Jésus prend son église, il la fait manger, il faut la fête, après il faut un tribunal où on va recevoir des récompenses ou pas. Et puis ensuite, une fois qu'on a reçu ces récompenses, ben on va redescendre sur la terre avec Jésus. C'est ce qu'on appelle le retour de Jésus, ou la deuxième venue de Jésus, ou bien c'est ce qu'on appelle l'avènement de Jésus. C'est ces différents points. Oui. Alors, c'est la grande question, et j'y arrive. Merci de l'avoir posé. Mais avant, je vous avais dit que cette première partie, ça se faisait dans les airs, c'est-à-dire hors de la terre, puis Jésus n'est pas encore descendu. Alors, voyons dans la Bible des passages qui expliquent comment ou quand ou ce qui va se passer sur la terre. Et on trouve dans Zacharie, chapitre 14, versets 4 et 5, un petit texte intéressant, eschatologique, et vous allez voir facilement les parallèles avec la suite. « Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu, à l'Orient, à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, et une moitié vers le midi. » Septentrion, c'est nord, le midi, c'est le sud. « Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. Vous fuirez comme vous vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps d'Ozias, roi de Juda, et l'Éternel, mon Dieu, viendra. » Élu, et tous ses saints avec lui. Donc on voit Zacharie, hein, quand même, dans l'Ancien Testament, qui annonce ce deuxième venue de Jésus sur la terre, avec des termes qui reprennent un petit peu ce qu'on connaissait déjà dans Actes 1, 10 et 11. Et comme les disciples avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et ils dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui était enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Et la petite question, géographiquement, où se trouvait Jésus quand il était enlevé au ciel? À Jérusalem? sur le mont des Oliviers. Et donc, physiquement, le même endroit où il est parti, qui était vécu hein, par Jésus en acte 1, eh bien, le même endroit, il va revenir comme le prophétisait Zacharie des centaines d'années avant. C'est intéressant de voir que finalement, dans l'Ancien Testament, il y a un certain nombre de versets qui nous montrent que tout n'a pas été révélé, dévoilé à l'Église du temps du Nouveau Testament. Bien, ce passage, donc ces deux passages montrent que Jésus va revenir physiquement à Jérusalem, on l'a compris, sur le mont des Oliviers, et que son arrivée va créer un tremblement de terre qui va modifier la géographie locale. D'ailleurs, les musulmans, ils croient que Jésus va revenir. En tout cas, ils s'en doutent ou ils ont peur. Et puis, ils ont créé un cimetière entre le mont des Oliviers et la Grande Porte Dorée. Il y a un cimetière musulmans là, parce qu'ils se disent, nous avons la vraie religion, mais si des fois on s'est trompé, puis que Jésus revient vraiment, comme ça un juif, il ne pourra pas traverser la vallée pour passer du jardin des Oliviers à la grande porte dorée, à la porte royale, où il fera son entrée, parce que si un cimetière, il y aura des morts, et puis s'il touche le cimetière, il est impur. Donc il est fichu. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas lu Zacharie, et puis ils n'ont pas vu qu'il y aura un tremblement de terre, et puis que tout va être pour changer. Et si on relit Zacharie avec ces idées-là, avec cette compréhension, on verra qu'il y aura, une nouvelle géographie qui fera que peut-être le cimetière il va partir soit au septentrion au nord, soit au sud, mais qu'il y aura un tremblement de terre qui va tout changer. Voilà. Donc Dieu se rit de ses ennemis. D'accord ? Ça, c'est une belle chose aussi à savoir. Bon, maintenant, Jésus va entrer dans un temps de règne qui est appelé « millénium » dans le livre de l'Apocalypse. Et le millénium est une durée qui est communément admise comme étant une durée de 1000 années terrestres. Maintenant, quand l'Église sera enlevée, c'est le moment précis, et quand Jésus reviendra sur la terre, c'est un moment précis, la question qu'on peut se poser, c'est combien de temps on va faire la fête au ciel, combien de temps on sera jugé, qu'en est-il des tribulations, puisqu'il semblerait que quand l'Église va être enlevée, il pourrait peut-être y avoir des tribulations. Et puis plusieurs thèses contradictoires mais néanmoins bibliques s'interrogent sur cette période qui va séparer justement l'enlèvement de l'Église du retour de Jésus. Et là je parle un petit peu barbare, mais la grande question est de savoir, la grande question au niveau ce niveau-là, c'est de savoir si l'Église va être enlevée avant cette tribulation, après cette période de tribulation. Il y en a qui pensent même que ça sera au milieu. Période de tribulation qui va secouer l'humanité et qui se trouve dans plusieurs passages dans le Nouveau Testament. Alors, la tribulation, qu'est-ce que c'est ? C'est une période de terrible persécution qui va durer 7 années avec une amplification terrible, exponentielle on dira, de ces tourments dans la deuxième partie de ces 7 années, c'est-à-dire 3 ans et demi terribles, et puis suivi de 3 ans et demi ultra terribles. Cette semaine d'années, hein, puisque 7, ça fait comme une semaine d'années, correspond, semble-t-il, avec cette 70e semaine de Daniel qui nous donne le calendrier juif. Alors le calendrier juif, il dit ceci, en Daniel 9, 27, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de la semaine, donc on pourrait voir peut-être cette moitié comme étant ceci, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, le dévastateur commettra les choses les plus abominables, puis on se dit, tiens, ce dévastateur, est-ce qu'on ne pourrait pas l'identifier à l'Antichrist ? Oui, sans problème. Donc ce dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Donc ça veut dire qu'il semblerait que cette semaine d'années coupée en deux par Daniel corresponde à cette année de tribulation, d'autant plus que l'Antichrist, il est là. Il est dans Daniel, puis il semble qu'il soit là aussi dans le cadre de cette tribulation. Jésus l'a aussi annoncé dans Matthieu 24, on l'a lu le verset 21, quand il dira ceci, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et il n'y en aura jamais. Donc c'est vraiment, on ne peut même pas imaginer l'horreur, la souffrance, la violence que cela va se faire. On n'en dormirait plus peut-être si on le savait. Ésaïe, Joël, Daniel, tous ces gens comme ça, vous aurez les références, ont aussi annoncé ce temps de terrible tribulation. Bien, arrivons maintenant à ce qui nous intéresse, savoir si vous pensez que l'Église sera enlevée avant cette grande tribulation, si l'Église sera enlevée après, si vous êtes normand, vous pensez aux Vaudois, vous pensez que, voilà, ce sera au milieu. Je peux juste voir comme ça, vous ne serez absolument pas jugé. Si vous levez la main, vous ne serez pas plus sauvé ou moins sauvé. Mais juste pour me faire une petite idée, qui pense, on appelle ça être pré-tribulationniste, que l'Église sera enlevée avant la tribulation? Vous pouvez me montrer comme ça? Voilà, merci. Qui pense qu'elle sera enlevée après la grande tribulation? Il n'y a personne. Une demi. Qui pense qu'elle sera enlevée au milieu de cette tribulation? Un et demi. Et toi, tu te grattes, mais je ne sais pas si tu aimes la main. Mais bien, donc, Bible en main. Je vais vous convaincre, mais vous l'avez déjà, donc c'est bien, qu'il faut être pré-tribulationniste. D'accord? Mais après, je vais vous convaincre aussi d'être post-tribulationniste, c'est-à-dire que l'Église sera enlevée après les 7 ans. Et puis pour tout mélanger dans votre cervelle, je vais aussi vous convaincre d'être mis. Puis après, ça sera à vous de choisir. Mais souvent on dit, on n'entend que le son d'une cloche, alors il y aura 3 cloches différentes, ding ding dong, puis on comprendra un petit peu ce que ça veut dire. Bien. Alors, moi, je vais à chaque fois être celui qui est convaincu. Hein. Moi, je trouve que l'Église sera enlevée avant la tribulation. Parce que j'ai des versets bibliques qui le prouvent. Alors, si je prends 1 Thessaloniciens 3:13, il est dit ceci. Il continue la phrase, « Afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Dieu, lors de l'avènement de notre Seigneur avec tous ses saints. » Donc une première chose. Puis un deuxième verset, Zacharie 14, 5, que je vais trouver ici, je ne sais plus où. Zacharie 14, 5, tu l'as ici là Voilà. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps d'Ozias, roi de Juda, et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Ça montre que les saints seront avec Jésus quand il reviendra sur la terre. Ce n'est pas très compliqué, je pense que tout le monde le comprend. Mais c'est surtout Apocalypse 3.10 qui m'intéresse. Parce que Apocalypse 3.10 dit ceci, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Et c'est surtout sur ce verset que les pré-tribulationnistes, que nous sommes tous, se fondent pour dire, selon ce verset biblique, eh bien Dieu va nous garder hors de la tentation, hors de la tribulation, et que ça veut dire que je vais être enlevé avant. Donc l'Église, si je reprends ici, ça c'est les Ça, c'est la tribulation.
Il est quand même dit que dans ce temps de tribulation, dans la deuxième partie, il y aura une bataille à Armageddon où le sang sera à hauteur des genoux des chevaux, tellement qu'il y aura de sang qui va couler. Donc imaginez, quoi, ça sera une piscine de sang. Toute la vallée de Megiddo, ça sera une piscine de sang. C'est impressionnant. Donc,
Jésus-Christ, donc là, je suis enlevé. Youhou! Et pendant 7 années, les amis, je vais manger avec Jésus. De tous les repas qui existeront, je vais aussi être jugé, mais ça c'est un plaisir finalement, puisque à la base il y aura des récompenses. Mais le jugement, le temps des noces de l'agneau et puis les récompenses sera pendant 7 années. Puis pendant que le monde hurlera de douleur, moi je me délecterai avec vous pendant 7 années avec Christ. Finalement, on l'a bien mérité. Finalement, qu'est-ce qu'il est dit dans la Bible? Il est dit dans l'histoire de Lazare et du riche. Il dit, toi tu as eu tout ce qu'il fallait pendant les jeûnes, pendant ta vie, le pauvre, Lazare il était pauvre, il a eu les maux, ben maintenant il a le bien. Ben voilà, ben vous étiez persécutés, vous allez manger, être en sécurité, alors qu'en bas c'est la catastrophe. Puis effectivement, ça nous arrange bien. On est bien d'accord. Et puis moi, je trouve que c'est intéressant d'être pré-tribulationniste parce que finalement, c'est quand même notre récompense. Dieu, il a vu notre foi et puis il ne veut pas nous tenter au-delà de nos forces. Hein, c'est Romain qui le dit. Ça serait trop pour moi. Puis comme disait Matthieu 24, Jésus le dit, ça sera tellement terrible qu'il n'y aura jamais eu quelque chose de pire que ça. Donc Dieu, il est tellement bon et puis il reconnaît ses enfants, et puis il va nous éviter ce genre de choses. Ouh. Bravo.
C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de volontaires.
Oui. On n'aime pas souffrir. Bien. Moi, j'aimerais vous donner ma version des faits. Et je trouve qu'on devrait plutôt être post-tribulationniste. C'est-à-dire qu'on va vivre ces 7 années de souffrance sur la terre. Vous me dites, ouais, mais ça c'est facile à dire, mais prouve-le. Je vais vous le prouver. Je vous explique. Pour moi, donc, l'Église sera enlevée après les 7 années. Et je regarde simplement ces épîtres, les 2 épîtres que Paul a écrits aux Thessaloniciens, qui sont uniquement des épîtres eschatologiques, et je lis en 2 Thessaloniciens 2:1, ceci. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, etc. Mais c'est ce début de phrase, regardez. Pour ce qui concerne l'avènement, quelle est la première chose qui c'est quoi l'avènement? L'avènement, c'est le retour de Jésus-Christ. Et puis, le « et » lie cet avènement à ce qui va suivre, et ce qui va suivre, c'est notre réunion avec lui. Quand est-ce que je vais être réuni avec le Christ? Le jour de l'enlèvement. Donc c'est comme si Paul dit, pour ce qui concerne le retour de Jésus-Christ qui coïncide avec l'enlèvement de l'Église, et tout d'un coup, je dis, patatras, mince, parce que dans ce verset, ça montre que l'enlèvement coïncide avec le retour de Jésus. Si le retour de Jésus, oups, il est là, eh bien l'enlèvement a lieu là. C'est ça coïncide. Puis là, on appelle ça donc les postes tribulationniste, c'est-à-dire après la tribulation. Ben ça ne me réjouit pas trop, franchement. Je dis, oui, mais c'est qu'un verset. Alors, prenons un autre verset. Apocalypse 20,
versets 4 et 5, il est dit « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. » Tiens. Donc, la bête, son image, cette souffrance, on est en plein dans l'Antichrist. On est en plein dans le temps de tribulation. D'accord ? Et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ou sur la main. On est d'accord ? Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc, il semblerait que ces chrétiens aient vécu ce temps de tribulation qui va déferler sur le monde. Puis le verset 5, il est écrit, « Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. » Puis après, il y a 4 mots qui m'effraient, c'est écrit, « C'est la première résurrection. » Et la première résurrection, c'est le jour de l'enlèvement. C'est là où les gens ont ressuscité. Or, le verset 4 du chapitre 20 du livre de l'Apocalypse m'explique que les chrétiens vont être décapités à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, qu'ils n'ont pas voulu adorer la bête, qu'ils n'ont pas voulu avoir sur le front ou sur la main le signe qui les faisait acheter ou vendre, et qu'après ces terribles tragédies, eh bien, il y aura la première résurrection, puis la première résurrection, c'est l'enlèvement. Donc, mes amis, je suis désolé, mais vous devriez plutôt être post-tribulationniste, parce qu'en fonction de 2 Thessaloniciens et puis de Apocalypse 20, eh bien, il faut être convaincu que l'Église sera enlevée après la tribulation. Puis on ne peut pas enlever ces versets bibliques. Zut. Bon, qui pense qu'il est post-tribulationniste maintenant? Vous savez, hein, les croyances, c'est compliqué. Alors maintenant, j'aimerais un petit peu encore vous mettre en cours. Oui, alors, tu attends la troisième. Alors, je mets la troisième, c'est fait exprès, début avant. Et puis après, il y a les mi-tribulationnistes. Ça veut dire qu'il y a des gens qui pensent qu'ils seront enlevés ici, au milieu. Donc il y a 0, là il y a 7 ans, puis là il y a 3 ans et demi. Et au milieu, ben voilà, moi je vous dis, l'Église sera enlevée au milieu de la tribulation, c'est-à-dire 3 ans et demi après le début de la grande, enfin de cette tribulation. Alors, regardez bien, parce que maintenant c'est intéressant. Parce qu'au début, vous étiez persuadé d'être pré-tribulationniste. J'essaie un petit peu de mettre de vous secouer un petit peu pour vous dire pourquoi on ne pourrait pas être post. Puis vous êtes trop encore ancré dans le pré maintenant. Là, je vais essayer de mettre l'estocade finale pour vous pré-tribulationniser. Et pour vous montrer que finalement vous avez tort. Puis qu'il faut être mi-tribulationniste. Vous êtes prêts? Alors, Daniel 9, 27 dit ceci. Il fera, on l'a déjà lu avant, mais je le relis maintenant, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui était résolu fonde sur le dévastateur. Donc là, on a ces semaines d'années. Puis tout d'un coup, Daniel, on ne sait pas pourquoi, il parle d'une moitié de semaine. Comme si ce temps de tribulation était coupé en deux. Puis qu'il y a des choses qui allaient se faire avant, puis des choses qui allaient se faire après. Si je continue, en Apocalypse 11, le verset 2, il est dit ceci, « Mais le parvis extérieur du temple, laisse-les en dehors, et ne le mesure pas, car il était donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » Voilà. Puis je me rends compte que 42 mois, ben ça fait 3 ans et demi. Hein, une année 12 mois, 2 ans 24 mois, 3 ans 36 mois. de 36 à 42, il reste 6 mois, ça fait 3 ans et demi. Puis là, pourquoi est-ce qu'il parle de 42 mois dans le livre de l'Apocalypse ? Bon, je ne sais pas, mais je continue un petit peu plus loin. Et puis, je regarde en Apocalypse 3 maintenant. 13, verset 5. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Tiens, je retrouve aussi cette même chose. Puis finalement, j'ai un autre verset, mais que je n'ai pas noté ici, où il parle aussi de 1260 jours, texto dans l'Apocalypse, mais j'ai oublié de le mettre. Je crois que c'est Apocalypse 13, verset 3. Alors, voilà, non, je ne l'ai pas ici. Donc, j'ai 3 ans et demi, 42 mois, puis 1260 jours, ça fait aussi 3 ans et demi. Puis je trouve ça intéressant, cette idée qu'on mette par 3 fois un laps de temps qui est identique. Et puis, je me dis, mais peut-être que l'Église sera enlevée au bout de 3 ans et demi. Et si je relis Apocalypse 3, verset 10, qui dit ceci, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les situations du monde. » Les tenants de cette doctrine mi-tribulationniste disent que Dieu va les garder hors de la grande tribulation, de cette deuxième partie qui sera particulièrement difficile. Et puis que la première partie, ben, on devra y vivre, on devra le vivre. 2 Timothée 3, verset 1, dit ceci, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » C'est encourageant, hein ?« Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre ? Quelles persécutions n'ai-je pas supportées ? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et là, on se pourrait penser, en fonction de ce que Daniel et Apocalypse disent, que finalement, nous allons vivre la moitié de la persécution. Ça sera difficile. Parce que je vais vivre en Jésus-Christ, je serai persécuté. Mais que dans la deuxième partie qui sera plus terrible, ben Dieu va m'enlever et l'enlèvement aura lieu cette fois-ci dans cette partie-là. Alors, c'est difficile parce que des versets bibliques prônent chacune de ces trois pensées. Et moi, je me dis, ben, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Mais j'ai une idée. J'ai une idée à vous soumettre. J'aimerais qu'on soit tous post-tribulationnistes. Vous êtes d'accord? Donc, qu'on se dise tous, je serai enlevé après les 7 ans. Puis qu'on soit content quand ça viendra, que le Seigneur nous cherchait avant. C'est plus intelligent que de se dire « Je suis pré-tribulationniste, il viendra me chercher avant les 7 ans de tribulation, et puis que le lendemain de la tribulation, je sois toujours là, puis que j'abandonne la foi en disant « Seigneur, tu ne respectes pas ta parole, je ne veux plus te connaître, parce que ça sera pénible. » Donc moi, je vous dis, préparez-vous au pire et attendez-vous au meilleur. C'est pas beau ça ? Donc, que vous soyez mi-tribulationniste, post-tribulationniste ou finalement pré-tribulationniste, l'important, c'est que vous sachiez que Jésus va revenir, qu'il va prendre son Église. Et quelle que soit la façon dont on va vivre ces derniers moments, qu'on le vive ancré dans une relation avec Jésus. C'est ça qui va faire la différence. Et puis, moi, j'étais prêt au début, hein, comme vous tous. Puis après, au collège biblique, ben, j'ai changé. je me suis mis post, parce que je trouvais que c'était plus bibliquement plus solide, ces deux passages de Thessaloniciens. Et puis après, j'ai réfléchi, j'ai lu, puis je suis devenu mi. Je suis en train de bouger comme ça. Aujourd'hui, je vais dire que je suis post, parce que comme vous, je me prépare au pire, mais je m'attends au meilleur. L'important, c'est de garder la foi. Pas garder la foi dans les événements du monde, mais garder la foi en Jésus-Christ. Et parfois, on a la difficulté dans ces souffrances parce qu'on aimerait les éviter. Mais ce n'est pas vers la souffrance qu'il faut porter nos regards, c'est vers Jésus. Et puis, particulièrement dans ces temps de la fin, c'est vraiment le mot d'ordre pour nous. C'est que quelles que soient les choses que nous pouvons vivre, que nous pouvons subir, que nous pouvons souffrir, c'est les yeux qui doivent rester tournés vers Jésus, ni dans les circonstances, ni dans les souffrances, ni dans les ceux qui infligent les souffrances, mais que notre regard doit se porter vers Jésus. Je trouve que c'est une bonne façon de considérer cette tribulation. Je vais m'arrêter là. Je vais vous donner des leçons pour la prochaine fois. Donc vous aurez un dossier pour la prochaine fois, mais j'aimerais qu'on puisse lire 5 chapitres. Un par jour, et puis vous avez 2 jours de libre. Donc, j'aimerais qu'on puisse lire les 2 derniers chapitres d'Ézéchiel, Ézéchiel 47 et 48, et les 3 derniers chapitres de l'Apocalypse, Apocalypse 20, 21, 22. Parce qu'on va essayer de casser aussi des croyances sur ce qui se passera après le jugement dernier, et vous verrez que vous êtes étonnés de la nouvelle lecture qu'on aura de ces 2 livres, Ézéchiel 47, 48, et Apocalypse 20, 21, 22. Vous aurez un cahier la prochaine fois sur lequel on pourra écrire, et puis ça sera beaucoup plus simple. On va faire comme ça. Je vais vous proposer qu'on puisse prier pour terminer ce moment, et puis après on fera un temps de questions. D'accord ? Est-ce que quelqu'un aimerait prier pour ce dernier moment ?